Les samedis de l'abbaye de Belloc. Aujourd'hui, nous vous proposons une conférence de France-Marie Chauvelot, écrivain, auteur de la biographie de Maurice Zundel. Le thème de cette conférence de France-Marie Chauvelot, enregistrée à l'abbaye de Belloc Habitat et Humanisme le 13 avril 2024, l'évangile de Jésus-Christ, chemin de désappropriation pour vivre la relation à l'esprit. France-Marie Chauvelot.
Toujours très heureuse de vous retrouver. Nous sommes en pays de connaissance de Maurice Zundel, donc je vais passer très vite sur la biographie pour que nous attaquions le fond de sa pensée et sa lecture des évangiles. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savent, Maurice Zundel est un prêtre catholique suisse qui est né en 1897, mort en 1975. Un grand intellectuel, un profond mystique qui s'est interrogé sur tous les germes qu'il percevait de notre époque. Et cela a commencé, mais dès la fin de la Première Guerre mondiale, où il savait déjà qu'il y en aurait une seconde au vu des conditions de reddition. Et sa question angoissée, permanente, a été « Mais comment est-ce que Dieu va résister à l'homme dans cette perspective qui s'annonce ? Quelle va être la place de Dieu ?» Et cela pose la question fondamentale, évidemment, de quel homme sommes-nous appelés à devenir et de quel Dieu pouvons-nous rencontrer ? Toute sa pensée, toute sa vigilance, c'est un homme qui dort 4 heures par nuit, en gros, dans les bonnes nuits, est hanté par cette question qui anime toute son action pastorale, qui anime toute son action intellectuelle et toute sa charité. Il a eu une enfance en famille catholique, mais dans un milieu très protestant. Il habite en Suisse, il va à l'école communale protestante, il est proche de sa grand-mère protestante, ce qui lui sera beaucoup reproché par la suite, par ses détracteurs. Et pour autant, ça lui donne cette espèce de radicalisme évangélique avec ce côté très, très social. C'est un prêtre très impliqué dans le social. Maurice Zundel sait très tôt qu'il veut devenir prêtre, il le sait à peu près dans sa 15e année. Et quand il va rentrer au séminaire, il a 22 ans, c'est un très jeune prêtre. On lui confie des tâches paroissiales, en veux-tu, en voilà. Et comme il dit oui à tout, et qu'il l'assume avec une implication personnelle très forte, il surprend. Il surprend sa hiérarchie, il surprend ses confrères qui ont l'impression d'avoir affaire un peu à un donneur de leçons parce que cet homme est tellement impliqué. Pour vous donner des exemples, il s'occupe d'aumônerie scolaire. Il fonde des patronages pour aider les jeunes filles du milieu ouvrier de sa paroisse. Il a fait venir des professeurs pour être extrêmement concret. De quoi ont-elles besoin ? De sténo, de dactylo, d'apprendre. Il fait venir des professeurs pour les occuper et leur apprendre. Il leur parle de Dieu dans des termes auxquels elles ne sont franchement pas habituées, en termes de joie, de bonheur. « Êtes-vous heureuse ?» dit-il à une jeune fille qui descend l'escalier. « Êtes-vous heureuse ?» Alors ça, elle ne s'était jamais posé la question. Elle savait, il fallait vraiment lui expliquer ce que c'était qu'être heureuse. Elle y réfléchit. Ce sont des gamines qu'il va amener à une réflexion spirituelle parce que pour lui, ce qui est important, c'est d'éveiller. Éveiller parce que seul l'éveil provoque une adhésion au spirituel. On n'est pas passif. On est dans un dialogue, on est dans une interrogation, comme lui-même est dans cette interrogation constante. On est dans l'interrogation du divin, du spirituel, de l'homme, du sens, du pourquoi, de la création. Et les enfants s'y prêtent avec cœur, d'autant plus qu'il le fait très intelligemment. Il les cultive, il les emmène écouter des pièces de théâtre, il les emmène au musée, découvrir la beauté, se plonger dans l'art. Il les traite comme des adultes spirituels, il les aide à devenir. Les gamines sont enchantées. Donc évidemment, il y a des confrères qui disent qu'il fait un engouement sur sa personne. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de cours où les enfants veulent se précipiter pour venir? C'est sur lui que ça porte? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un jeune prêtre? Est-ce qu'il attire pas un peu les filles? Enfin bon, toutes ces questions-là se posent alors que, soyons clairs, dès le départ, on a affaire à un être d'une pureté exceptionnelle. Zundel s'identifie à la pureté du Christ. Hein. Vraiment, c'est son maître, c'est son maître. Donc ce jeune séminariste, qui est très brillant, qui fait les sermons de tout le monde, hein, il fait toutes les homélies, on lui demande, et il en fait jusqu'à 7 le dimanche, hein, sans note, les thomistes commencent à le regarder d'un bon œil. Maritain le voit et fait appel à lui quelquefois. L'évêque en est satisfait, mais quand même, cette implication sociale où on voit ce prêtre qui sort de l'école pour aller voir ce que vivent les familles, À l'époque, ça ne se fait pas. On est dans les années 20-25 quand même. Ça, c'est un peu excessif. Cette sensibilité paraît excessive, alors que c'est en fait la sensibilité du mystique. Et il va donc voir dans les familles ce qui s'y passe. Et ce constat social, pour lui, est énorme, parce qu'il voit beaucoup de femmes seules, en charge d'enfants. Et il parlera très souvent du Dieu mère, parce que quand il voit les mères aimer leurs enfants à ce point, se donner, souffrir plus que leurs enfants de situations dans lesquelles ils se plongent ou ils sont plongés, Zindel dit: comment est-ce que le Dieu pourrait être moins aimant qu'une mère? C'est impossible. Et donc ce constat très réaliste de la situation qu'il vit, il s'engage pour le vote des femmes. Je ne sais pas si vous savez qu'à Neuchâtel, quand même, les femmes n'ont voté qu'en 1971. Ça paraît ahurissant, c'est le canton de Zindel. Hein. il s'engage. Donc cet engagement paraît très particulier. Puis alors un dimanche, il s'envole. Il s'envole, il fait un sermon sur la nécessaire pauvreté de l'Église, parce que pour lui, seule la pauvreté peut ouvrir le cœur et amener un cœur à cœur avec l'autre. Là, on se dit cette fois-ci, ça va comme ça. L'évêque est saisi par des familles qui disent: mais oui, puis en plus, en l'école, vous saviez ce qu'il va leur faire voir comme classe, comme conférence et comme pièce, vous ne seriez pas forcément d'accord. Il leur fait lire des livres qui sont parfois à l'index. Quand on voit les livres, bon. Donc tout ceci s'accumule, et Zindel est chassé de sa paroisse, ça c'est le terme pas très gentil, pour dire qu'il est envoyé à Rome pour revoir sa théologie, alors que c'était un très brillant séminariste. Bien, à son retour, aucune place ne lui est trouvée. Précisons cependant que c'est à Rome qu'il rencontre Jean-Baptiste Montigny, que les deux s'entendent, écrivent quelques articles ensemble et se reverront à Paris par la suite. C'est ce qui vous explique le lien avec Paul VI. Donc revenu en Suisse, il n'a pas sa place en paroisse et on l'envoie en France en se disant: là-bas son esprit bizarre sera mieux compris. Il y reste quelques années, en 1939 il rentre en Suisse dans sa famille, la guerre éclate, il ne peut plus revenir en France. Louis Massignon, qui le connaît bien et qui l'a vu à la rue Monsieur et a apprécié ce grand intellectuel mystique, lui propose de partir en Égypte, où il va rester pendant toute la guerre. Donc jusqu'en 1946, il ne reviendra qu'en 1946. Il arrive à ce moment-là en Suisse, il se retrouve vicaire d'une paroisse, il a refusé de prendre une charge plus importante parce qu'il voulait quand même beaucoup réfléchir à la place de Dieu dans le monde après l'explosion nucléaire. Parce que là, il s'est dit, le monde peut y passer. Là. Il a préféré réfléchir, écrire, s'instruire, comprendre et essayer de maintenir l'intérêt spirituel, la nécessité et la vocation spirituelle de l'homme dans un monde en gros chaos. Et puis, il sera, si elle a convié à des causeries intimes dans les cloîtres, beaucoup dans les cloîtres, dans des cercles qui se sont constitués. Sa pensée est peu connue parce que Zindel reste très marginalisé par l'Église, puisqu'il y a eu quand même cet exil hein, quelque part, et on ne sait pas très bien, les causes sont mal connues pour beaucoup, donc le rendent un peu suspect. Et sa pensée va être diffusée en France par l'abbé Varillon, par le père Varillon, qui ne citera jamais Zindel, mais qui a été très abondamment nourri par le Bernard de Boissière, jésuite, à qui nous devons, merci cher Bernard de Boissière, la connaissance de Zindel aujourd'hui. Il restera en Suisse jusqu'à sa mort, en 1975, laissant derrière lui 19 livres, beaucoup d'homélies. Et pour aborder Zindel, il est préférable de passer par les livres rassemblant justement ces homélies parce que l'œuvre orale est beaucoup plus accessible. On peut s'intéresser pour commencer par exemple à l'évangile intérieur, l'homme existe-t-il ? Enfin bon, plusieurs livres de... Et puis aussi celui-ci, si vous voulez, qui est une anthologie assez simple d'accès, « Je ne crois pas en Dieu, je le vis », qui est une phrase de Maurice Zindel, qui explique justement l'idée de passer de l'extérieur à l'intérieur. C'est la grande phrase de saint Augustin, « Vivre Dieu de l'intérieur ». Donc voici en gros pour sa biographie. Ce qui va nous intéresser, c'est son chemin spirituel personnel. C'est un chemin expérimental. C'est ça qui est merveilleux, c'est une foi expérimentale chez Zindel. C'est ce qui lui donne quelque part cette certitude. Il n'a pas eu de crise de doute, Zindel. S'il a eu parfois du doute, c'est sur l'homme, mais jamais sur Dieu. Et il a donc eu dans sa 14e année 4 fulgurations successives qui ont été fondatrices de sa spiritualité. Tout d'abord, un 8 décembre, il est dans l'église de Neuchâtel, en prière et en méditation, parce qu'il médite beaucoup, sur la conception virginale. Et soudain, il ressent une présence très, à la fois douce et puissante, que les mystiques évoquent quelquefois quand ils évoquent la présence de Marie. Une présence très chaleureuse, très, très douce, pas ferme, c'est pas le mot, puissante, qui lui fait comprendre, et il l'expliquera davantage par la suite, que la virginité va bien au-delà d'une question physique. Elle est une adhésion de l'esprit, une transparence à la présence du Dieu intérieur. C'est un véritable cheminement, Marie. Marie, elle a dit oui, elle a Dieu en elle, elle dialogue avec Dieu en elle, elle le met au monde et elle l'offre au monde comme une relation. Une relation à elle-même déjà et une relation à l'autre. Quelques mois après cette découverte très profonde, Zindel reste fidèle à ses découvertes toute sa vie. Donc il y a un vrai chemin marial chez Zindel, axé sur la transparence de l'être au feu intérieur. Eh bien, la deuxième fulguration sera donc une lecture de Victor Hugo, l'évêque Myriel qui reçoit Jean Valjean, qui se fait voler dans la nuit le couvert d'argent, la police le ramène, et l'évêque ne dépose pas plainte. Quand il se retrouve en tête à tête, il lui dit « Tout est à vous ici, vous êtes dans la maison de Dieu ». Cet acte gratuit, c'est ça qui convertit Jean Valjean. Cette confiance en lui, cette confiance en son advenir possible. Tu n'es pas que ce que tu montres. Tu es enfant de Dieu quelque part, sans qu'un mot soit dit, aucun prosélytisme. Simplement une confiance. Vous savez, quand il est dit « il ne faut pas se dévisager, il faut s'envisager ». C'est tout à fait ça. Envisager, ça te donne cette possibilité d'advenir. Et c'est vraiment ce qui convertit. Et c'est pour ça qu'on a la trace de ce serment sur la pauvreté chez Zindel. Quand il va dire « l'Église doit toujours être pauvre si elle veut être crédible quelque part spirituellement », c'est justement ce don de Myriel qui a converti Jean Valjean. Si l'Église veut convertir, dit-il, elle doit être un lien de pauvreté et de cœur à cœur, d'offrande, de gratuité, d'accueil. Peu de temps après, il lit les Béatitudes avec un ami qui a un ton formidable pour dire les choses. Et il découvre cette béatitude qu'il a déjà entendue à plusieurs reprises. Et là, mais pour lui c'est une évidence absolue, l'Évangile est la voix d'un ami. D'un ami qui vient nous donner un itinéraire, un chemin pour que mettre en pratique cette incarnation de Dieu, Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. L'homme deviendra Dieu en suivant le chemin de l'Évangile. Et l'Évangile, pour lui, est un véritable mode d'emploi. C'est extrêmement concret et nous allons en voir tout à l'heure les étapes pour bien comprendre comment ça se passe pour que l'homme devienne Dieu. Et puis la dernière expérience spirituelle de Zindel dans cette même année d'adolescence, donc en 1911, c'est pour passer le séminaire, il doit maîtriser l'allemand et il faut qu'il aille à l'abbaye de Einsiedeln en Suisse allemande. Alors là, il découvre la pompe liturgique fantastique, l'abbaye bénédictine, où il découvre justement la liturgie vécue les yeux fermés, la liturgie qui s'adresse à l'inconscient, qui se chante à plusieurs où on est un et qui ouvre un chemin direct. C'est une aspiration. C'est une communauté où le ciel rejoint la terre. C'est un moment privilégié où le ciel rejoint la terre. Ils ne font qu'un. Et cette liturgie vécue, les yeux fermés pour Zindel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est étudiant, mais il mène la vie des moines. Il voudrait devenir moine, il voudrait rester à Einsiedeln. Mais la guerre éclate. Nous sommes dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Les francophones sont priés de rentrer en Suisse francophone et donc il ne pourra pas. Il sera oblat de cette abbaye à laquelle il reste avec une fidélité en disant qu'elle est la patrie de son esprit. et il fondera une oblature à Genève. Heinz Hinden lui inspirera également ce fameux poème sur la liturgie. Si vous deviez lire ce livre, prenez plutôt la version de 34, qui est plus nourrie que celle de 25, qui est une méditation sur toutes les étapes de la messe, et c'est d'une profondeur, d'une mystique, c'est magnifique. Sur cette base très concrète de ces fulgurations, Zindel entreprend un chemin spirituel fondé sur la pauvreté de soi. La pauvreté de soi, il la trouve chez Marie, justement qui est emplie de ce qu'elle contemple et qui se vide d'elle-même pour être emplie. Et cette histoire du vide plein, on le retrouve chez toutes les révélations mystiques. Je ne sais pas si vous en avez lu quelques-unes, sur des contemporaines notamment, où on fait allusion justement à ce vide plein. Chez Zindel, ça prend l'aspect du vide créateur, c'est-à-dire qu'on se vide de soi pour s'emplir de ce que l'on contemple ou être empli, ça dépend si on est acteur ou si c'est une révélation. Et après, l'idée, c'est de rester en lien avec ce qui nous emplit pour l'émaner. C'est vraiment ce que représente la Vierge dans la statuaire, c'est qu'elle n'apporte pas son fils la tête contre elle. Elle le porte assis vers le monde. Elle l'offre. Donc cette prise de conscience, cette amplitude, cette incarnation de Dieu n'est pas pour elle, elle l'offre. On le retrouve dans tout le fil spirituel de Zindel. En outre, Zindel a vécu une expérience mystique forte quand il était en Italie, en allant contempler des statues de David. Et il a expliqué à ce moment-là qu'il était justement dans cet état où l'on n'est pas concentré sur ce que l'on voit. On est presque... on commence à regarder, puis à un moment où ça devient un petit peu flou, on est comme dans une espèce de méditation. Et là, soudain, il a été pris, dit-il. Il a été pris et il a touché l'absolu de la beauté. L'absolu vers laquelle courent les poètes, dit-il, vers lequel courent les scientifiques, vers lequel court l'amour. L'absolu, c'est-à-dire... ce qui va inspirer la création. Toute création, toute créativité vient d'une forme d'absolu. Sinon, elle ne le transmet pas. C'est l'art avec un A majuscule, c'est l'amour avec un A majuscule, c'est de la science avec un S majuscule, c'est ce qui est en profond lien avec l'absolu, le sublime, l'essence, qu'on essaye de retranscrire malgré nous. Mais c'est aussi l'expérience qu'il nous a décrite tout à l'heure avec la Vierge, qui elle a communiqué avec cet absolu. C'est la même chose, mais avec des degrés divers. Chacun avec son niveau de conscience, chacun avec sa mission, chacun avec son tempérament. Mais l'idée profonde de cette démarche, c'est de communier à l'absolu, c'est-à-dire qu'il faut se vider de soi-même. Ça, c'est très important parce que c'est le vide de soi qui devient créateur de ce qui nous emplit. Créateur de l'autre avec un grand A ou de l'autre avec un petit A dans l'accueil. Si on accueille quelqu'un avec toutes nos pensées a priori, avec toutes nos subjectivités, nos questions, nos machins, on est dans le bruit, on n'entend pas l'autre. Il faut vraiment se vider soi-même pour entendre l'autre. Arrêtez le bruit en soi. Voilà, arrêtez le bruit en soi pour entendre l'autre. Et alors ce qu'il y a d'extra et de rare, c'est que Zindel dit que cet état-là, il peut le reproduire à volonté. Ce qui montre bien que c'est un état de conscience, c'est un état d'être. C'est-à-dire quand il s'arrête et qu'il se branche, ben il se branche directement à l'absolu. Et ça, alors là, c'est là où c'est magnifique. Il le vit surtout avec les humains. Quel que soit l'humain qu'il a en face, il arrive à se relier à cet absolu qui anime chacun. Parce que Dieu est toujours en nous, Dieu est en chacun de nous, manifeste ou non. Présent, oui, mais manifeste, non. Et il arrive, en se branchant, à susciter parfois chez l'autre un éveil. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu en lui s'adresse à Dieu en l'autre, et quelquefois l'autre entend Dieu en lui. Il a obtenu des retours à la foi, il a obtenu des conversions, mais sans les chercher. Quand je dis obtenu, c'est mon mot à moi, il n'a pas du tout cherché. Il est, il explique ce qu'il est et comment il vit sa foi. Et là, boum, en s'adressant à ça, il touche l'âme de l'autre, qui se restructure autour de son âme, qui redonne à son âme la respiration. Et donc, c'est ce prêtre de vicaire de banlieue, avec tout ce potentiel que nous venons d'entreapercevoir, qui va être appelé en 1972 par le pape, ça, il n'en revient pas, pour venir prêcher la retraite au Vatican, la retraite de Carême 72. Donc, comme Paul VI n'avait jamais perdu de vue Zindel, il lisait un peu ses œuvres, mais il n'avait pas de contact personnel ensemble. Donc vraiment, alors là, il n'en revient pas. Ça ne tombe pas très bien pour lui, parce qu'il avait 2-3 causeries qui étaient prévues dans le mois, par ici, par là. Donc il arrive à Rome, les mains dans les poches, sans notes, hein, et 22 retraites, boum 22 retraites, d'un coup, sans note aucune, qui retrace toute sa question, toute sa spiritualité, tout son chemin, tout le message qu'il essaye de nous transmettre, sans aucun prosélytisme, simplement de ce qui lui paraît évident et essentiel, et qui sera retranscrit pendant les 3 dernières années de sa vie sous le titre de « Quel homme, quel Dieu ?». Et ce qu'il exprime, c'est qu'en gros, l'humanité n'est pas encore née. C'est là où il a un pont avec Teilhard de Chardin, c'est qu'effectivement, l'humanité est à venir. Avec une différence cependant, c'est que chez Teilhard, c'est un avènement global, et un peu lointain, hein, le point oméga. Chez Zindel, c'est ici et maintenant, c'est-à-dire que toute prise de conscience, tout éveil, hop, maintenant tout est possible. Et il me semble qu'aujourd'hui, on vit quand même ça à plusieurs dimensions. On entend des témoignages d'éveil qu'on n'attendait pas du tout, chez des personnes qu'on n'attendait pas du tout, de plus en plus nombreux, à des occasions impressionnantes. Nous évoquions encore ce matin une jeune femme extrêmement droguée. Pas facile de s'en sortir, hein, et qui tout d'un coup entend « arrête ». En elle, elle entend « arrête ». Ben, elle a arrêté, hein. Elle a arrêté. Et il me semble, hein, c'est moi qui parle, que l'esprit en souffle fort, et quand il souffle chez quelqu'un, ça donne des expériences de mort imminente, ça donne des prises de conscience, ça donne des états de conscience de modifier, etc. On a des personnes de tous horizons qui vivent quand même des découvertes extrêmement soudaines, des personnes qui sont parfois pas formées du tout. Et alors, si je prends la plus basique, c'est celle de Comte Sponville qui marche dans les bois et qui tout d'un coup se sent complètement retranché des bois. Il était avec d'autres personnes, il est complètement en dehors, il est dans un silence total, et il se sent relié à tout, faire partie de tout. Il l'explique en 3-4 pages remarquables dans l'esprit de l'athéisme. Néanmoins, ça le bouleverse, mais ça ne le convertit pas du tout. Il n'est pas en lien avec la source. Là où Zindel a été en lien avec la source, Dieu, tout de suite, avec la présence. Comte Sponville reconnaît avoir eu une expérience majeure, mais il n'en fait pas quelque chose. Néanmoins, cette expérience du tout, on la retrouve chez beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'éveillent en revanche, elles, sur le fait de méditation où vous devenez ce que vous contemplez. Mais c'est le principe un peu. Marie, tout à l'heure, on en parlait, elle contemple Dieu. Elle incarne Dieu, elle contemple, elle s'emplit de Dieu, elle s'emplit de ce qu'elle contemple. Et en fait, c'est important de savoir ce que l'on contemple, c'est important de savoir ce que l'on écoute, c'est important de choisir ce que l'on lit, ce que l'on pense, c'est important de choisir son entourage pour justement, en soi, consolider cet espace possible qui est notre intériorité, dans lequel nous serons amenés à puiser tout au long de notre éveil spirituel et de notre consolidation spirituelle. Et donc, l'humanité est en devenir, et on entend très souvent « l'homme est créé à l'image de Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est créé à l'image de Dieu? C'est extrêmement difficile à percevoir, ça, c'est quasiment inexplicable. Et Zindel, pour qui le mystère n'est pas un mur mais une profondeur, entre dans le mystère et va nous parler de la Trinité dans des termes qui sont très parlants. Bon, il n'est pas le seul à l'avoir fait, hein, mais C'est celui que je connais le mieux, donc c'est celui que je peux vous parler aujourd'hui. La Trinité, si on a un Dieu solitaire, il est forcément immédiatement extérieur à nous. Il y a Dieu et il y a nous. En étant extérieur à nous, on s'adresse à lui comme à une puissance, puisqu'on nous dit qu'il est tout puissant. On attend de lui le tout amour, puisqu'il est tout amour. Et on lui demande, et ça ne marche pas toujours. Hein? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il ne fait pas? Pourquoi est-ce qu'il n'anticipe pas? Si Dieu est Père et Fils, ça instaure une relation, mais la relation à deux, elle est très dangereuse, parce qu'elle peut être possessive, elle peut être narcissique. À deux, quand l'un des deux ferme les yeux, l'autre existe-t-il encore? Or, c'est la relation dans laquelle nous naissons, nous les humains. Nous rendons nos parents parents, et nos parents nous rendent leurs enfants. Nous naissons dans une relation binaire, d'appartenance, avec tous les dégâts possibles que cela fait. Dans les deux sens, positif comme négatif. Quand c'est négatif, c'est extrêmement destructeur. Quand c'est positif, c'est trop constructeur. Quand Thierry arrive, Ah ben oui, mais avec mes parents, ça marchait très bien. Et pourquoi ça ne marche pas avec toi? Ben oui, parce que la relation n'est pas qu'à deux. Ce qui désapproprie la relation, ce qui en enlève le danger, c'est la présence de l'esprit. Et ça, c'est extra. Ça, c'est extra parce que l'esprit, justement, détend la relation, l'empêche d'être narcissique et rend le mouvement du regard incessant en trois. C'est-à-dire qu'à trois, il n'y en a aucun qui garde le regard pour lui. Il est toujours projeté sur l'autre. En Dieu, la filiation est relation. On dit couramment « Dieu a un fils ».« Dieu a un fils ». C'est ce qui scandalise nos frères musulmans et qui me scandalise d'ailleurs moi-même, parce que Dieu n'a rien du tout. Il faut dire « Dieu est Père, comme il est Esprit ». Il n'y a pas un Père qui engendre un Fils et qui précéderait ce Fils. C'est devenu un cliché que le Père a créé le monde, que le Fils le rachète et que le Saint-Esprit le sanctifie. C'est un langage imagé, mais qui fait exploser l'unité divine, qui fausse essentiellement le sens de la Trinité. Il n'y a pas de Père qui se donne un Fils. Dieu n'a pas de Fils. Il est Fils. Il est Père et Fils et Saint-Esprit. Car s'il n'y a pas l'autre, s'il n'y a pas ce mouvement vers l'autre, il n'y a plus qu'un amour narcissique. Et sur la croix, c'est la divinité tout entière, Père, Fils, Esprit, puisqu'elle est indivisible, qui s'exprime et qui meurt d'amour. Lorsqu'on commence à vivre la Trinité, on comprend que c'est une relation qui est complètement désappropriée. Elle ne s'appartient pas, elle n'est qu'un mouvement altruiste qui fait exister l'autre sans se regarder elle-même. Donc elle n'attend rien de l'autre. Elle lui projette un regard d'amour qui va revenir sans s'arrêter à trois. Père, Fils, Esprit. En Dieu, le moi est pur altruisme. La personnalité jaillit éternellement comme un pur regard vers l'autre ou comme un pur rapport à l'autre. Le Père n'est qu'un regard vers le Fils n'est qu'un regard vers le Père, et l'Esprit Saint n'est qu'une respiration d'amour vers le Père et le Fils. Le Dieu trinitaire est un Dieu inconnu, dont nous n'avons pas l'habitude, un Dieu que les chrétiens dans l'ensemble ne connaissent pas. Et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours bien parler de la Trinité. Et quand on comprend quel est le modèle de la relation à l'autre et à soi, alors là, tout change. Tout change et c'est vraiment, vraiment ce que Marie vit dans son fiat, qu'il advienne, que son règne arrive, le règne de du don total. De l'amour sans attente, de l'amour désintéressé, de l'amour don de soi, du gratuit. Et à l'image de Marie, quand nous disons que ton règne advienne, c'est pas toi de ton extérieur, envoie-moi l'advenir et que ton règne advienne, viens tout de suite, s'il te plaît, changer tout ça. C'est que ton règne en moi advienne pour changer l'entourage et le monde. Toute âme qui s'élève, élève le monde. Et donc l'évangile est le chemin d'advenir de l'homme dans la divinité. C'est le chemin que nous avons chacun à parcourir pour comprendre et vivre l'Esprit. Dieu Père s'incarne en Dieu Fils. Dieu Fils quitte la terre, il nous laisse l'Esprit. Et l'Esprit, c'est notre mode maintenant de relation. La mission commence à Cana. À Cana, Cana, le Christ n'est pas prêt. Le Christ, il se sent pas prêt, c'est pas le début de sa mission. C'est Marie qui est à table avec ses amis, qui s'aperçoit que ça va pas et qui regarde son fils. Vas-y, fais quelque chose. Donne-leur. Tu peux, toi. Elle sait très bien qu'il peut, évidemment qu'il peut. Mais le Christ, il lui dit, c'est pas mon heure. Il le regarde. Et elle le court-circuite. Et elle dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Bon. Et c'est la très grande générosité du Christ de donner à Cana la possibilité d'avoir ce vin. Alors, il est vrai qu'avec le recul, on peut voir dans Cana le symbole, un symbole de la mission du Christ. C'est vrai, tout à fait. Mais avec le vin qui sera le sang versé, etc., l'amour de Dieu, on peut le voir. Mais sur le moment, nous on le voit avec le recul, mais sur le moment, personne n'a pu voir ça. Les serviteurs sont arrivés avec des outres d'eau, on les remplit de vin, ils se retrouvent avec du vin, ils ne comprennent pas, mais ils vont jaser, ils vont le raconter partout. Le maître de maison va être au courant. Ça va être petit, mais ça va quand même cheminer. Il a fait un miracle, c'est incroyable. C'est très dangereux pour le Christ comme début de mission parce que c'est un miracle très matérialiste quelque part. Parce qu'il va être matérialiste, non pas dans le don de lui-même, mais matérialiste dans la réception qui en est faite. Parce qu'après tout, dans les ceux qui jasent, eh ben, il te manque un peu de vin, invite le Christ à table, tu vas voir la cave qu'il va te faire. C'est un magicien. Or, c'est pas du tout l'idée. C'est pas du tout l'idée. Et d'ailleurs, les miracles suivants seront des miracles de guérison. Et ça change complètement la nature des choses parce que à Cana, ça correspond un peu à notre prière de base. Mon Dieu, fais que j'ai plus d'eau, fais-moi du vin, s'il te plaît. Puis alors je vais faire un pèlerinage pour que tu me fasses du vin si tu veux que je m'engage un peu plus. Mais on s'adresse toujours au Dieu extérieur. Et on attend que le Dieu extérieur agisse pour nous. Et sur la terre, fais la paix. Pourquoi tu ne fais pas la paix? Puis imaginez qu'il la fasse dans un repas de famille. Après, on va dire, pourquoi tu ne la fais pas sur toute la terre? Ben oui. Et la question peut s'entendre. Si Dieu est extérieur. Et ce Dieu extérieur ne peut pas apparaître comme l'amour absolu, puisque quand il ne fait pas, est-ce qu'il nous aime? Et donc, à la limite, c'est même la prière tellement basique, c'est « Puisque tu sais que j'ai besoin, pourquoi t'attends que je te demande ?» Question judicieuse et qu'on pose souvent d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il attend qu'on lui demande? Il voit bien, j'avais pas pensé à lui demander, mais il voit bien le marasme dans lequel je suis. Eh bien non, c'est pas ça. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est un dialogue. C'est un dialogue, c'est un devenir. C'est une participation. Et on l'entend très bien parce que les miracles suivants, justement, seront des miracles de guérison. Veux-tu guérir? Et vous remarquerez la confidentialité, chaque fois, il est demandé au miraculé de ne pas parler. La confidentialité, elle va rester jusqu'au bout de la mission du Christ, jusqu'à la Pentecôte. Au moment des tentations, le Christ est emmené en esprit sur une montagne. Et là, il sort d'un jeûne prolongé, il a faim, et il est face à Satan. Or, Satan sait très bien qu'il a en face de lui. Il a l'incarnation de Dieu, hein. Et l'enjeu est très intéressant pour Satan. Parce que s'il arrive à séduire l'humanité de l'incarnation de Dieu, il a gagné. Donc, il va s'y prendre en trois temps. Première tentation, refais cana. T'as pain, t'as faim? Change les pierres en pain. Tu vas voir, ça marche très bien. Et Jésus, au nom de l'Esprit, lui dit, l'homme ne se nourrit pas que de pain. Alors, deuxième tentation, saute de la falaise, les anges te rattraperont. Sous-entendu, sur la croix, les anges peuvent te rattraper aussi, si tu le souhaites. Alors, tu vas mourir quand même? Tu vas mourir pour des gens qui ne sont que dans l'avoir? T'arrives, toi, je suis celui qui suis. Tu vas te heurter à la muraille de l'avoir, ils n'en ont rien à faire, les hommes de je suis qui suis. Les hommes, ce qu'ils cherchent, c'est l'avoir, le paraître. Si tu leur fais des miracles, là, tu vas voir, là, tu vas marcher, mais du tonnerre de Dieu. Et après, la tentation du pouvoir. Je te donne le monde entier, qui normalement est à Satan. Hein. Je te donne le monde entier si tu te prosternes devant moi. Et Jésus lui répond, on ne se prosterne que devant Dieu. Les trois tentations, qui sont les tentations de l'homme, ont été repoussées. La tentation du pouvoir, la tentation de l'argent, la tentation de vaincre la mort, qui sont très actuelles, hein, ont été repoussées. Et là, Satan est vaincu parce qu'il n'a pas pu dissocier l'humanité et la divinité du Christ. C'est un sacré chemin pour nous. Chaque fois que nous avons une tentation, c'est quand nous, l'humanité, est priée de passer au-delà de la divinité qui est en nous. J'ai envie. Je voudrais. Je veux. Je veux, en général, c'est du matériel. Hein. Je veux ci, je veux ça, je voudrais. Mais la tentation, c'est là où nous pouvons nous référer au Christ, qui dans l'extrême, avec la tentation extrême, dans des conditions extrêmes, aurait pu ne pas choisir le chemin du calvaire, aurait pu y renoncer et s'offrir une toute autre vie. Parce que si Satan lui passait le monde, il l'aurait aidé. Hein. Il a ce choix. Et là, il ne faut pas s'y tromper, la partie humaine du Christ a le choix. Et il reste collé à sa divinité, à la divinité intérieure. Il reste collé. Et nous, nous avons toujours cette possibilité de rester collé à notre divinité. C'est de refuser la tentation. C'est dans cet au-delà de soi que notre âme se manifeste. C'est ce petit supplément, ce petit dépassement de soi. Le dépassement de soi, c'est le domaine de l'âme. Alors, avec la Samaritaine survient un épisode qui amuse beaucoup Zindel et c'est vrai qu'il est très rigolo. La Samaritaine, elle arrive, ondulante, avec sa jarre sur la tête, femme à homme. Tiens, un homme, bon, un juif, bon. Quand elle avait vu que c'était un juif, on ne va pas trop lui parler, on va prendre l'eau et on va partir. Il me parle. Et le Christ choisit la Samaritaine pour lui faire passer un message essentiel pour chacun de nous. Elle est le truchement. Et le truchement, il est rigolo. Parce que il lui fait d'abord une lecture de vie pour bien capter son attention. Va chercher ton mari. Je sais bien, tes maris, t'en as eu 5 et l'actuel n'est pas ton mari. Alors là, la Samaritaine, elle est captée 5 sur 5. Hein. Une lecture de vie, vous en faites une à n'importe qui dans la rue. Vous savez que vous captez complètement son attention. Tu es prophète ? Eh ? Et c'est là que c'est drôle. Il la regarde et il lui dit « Si tu savais qui te parle !» C'est tordant. Vous imaginez, vous arrivez au puits chercher de l'eau et vous avez quelqu'un qui vous fait une lecture de vie et c'est Dieu « Si tu savais qui te parle !» Et donc, est-ce qu'on aime Dieu là ou est-ce qu'on l'aime ici ? Qu'est-ce qui vaut mieux ? Et il lui dit, mais Dieu est en toi. Dieu est intérieur à toi. Dieu, c'est un dialogue intérieur. Tout ce que nous venons de voir jusqu'à présent, c'est ça Dieu. Dieu est toujours présent en toi, c'est toi qui n'es pas là. Mais si tu t'adresses à Dieu en toi, à la présence en toi, elle va se manifester. Et elle, plus elle va se manifester, plus le dialogue va s'intensifier, plus en toi l'espace intérieur va s'élargir, et plus ta vie sera à tremper au fur et à mesure dans cette intériorité pour guider tes gestes, tes paroles, tes regards et tes attentions. Il dit à la Samaritaine, c'est en chacun que Dieu est. Donc, tout éveil de conscience, toute compréhension nous ouvre au Dieu intérieur et nous met en dialogue avec la présence. C'est merveilleux. Où nous sommes, là où nous sommes, comme nous sommes, une conscience, une lecture, une rencontre, un événement nous met au contact, un recueillement nous met au contact de la présence en nous, autour de nous. On rentre en dialogue avec la présence où que nous soyons. Il n'y a pas besoin d'aller sur la montagne ou là. Là où nous sommes, Dieu est. C'est génial. Vient la transfiguration. Les trois apôtres se retrouvent là-haut. Puis tout d'un coup, Jésus leur apparaît complètement comme une lumière, complètement lumineux, en train de parler avec Moïse et Élie, qu'ils n'ont jamais vu, et dont ils savent instantanément qui c'est. Alors ça, c'est intéressant parce que je trouve que ça nous ramène aux expériences de mort imminente ou aux états de conscience modifiés que l'on entend en ce moment, dont on entend les témoignages. Parce que les gens savent très bien qui ils rencontrent dans leur état particulier, modifié. Ils savent très bien qui ils rencontrent. Ils reconnaissent des personnes qu'ils n'ont pas vues et ils en retirent des langages et des messages important dont ils se souviennent de façon fragmentée, mais leur rencontre est immédiatement identifiée. C'est intéressant parce que là, les apôtres vivent quelque chose qui peut nous évoquer ce genre d'état de conscience modifié quand même. Et comme toute personne qui a vécu des expériences de ce type, ben ils veulent pas redescendre. Hein. On va faire trois tentes ici, et c'est vrai que les gens ne veulent pas revenir de cet état merveilleux. Tous ceux qui l'ont vécu ne veulent pas revenir. On va faire trois tentes ici. Ah ben non. Eh ben non. Il faut revenir. Il faut redescendre du mont Tabor. Parce que ce que tu as vécu là, tu le portes en toi et tu vas le diffuser maintenant. Et c'est là où on sait, quand une expérience est profondément spirituelle, dans celle que je vous évoquais tout à l'heure, des EMI ou des états de conscience modifiés, leur authenticité se mesure à la transformation de la personne. Ces personnes changent complètement de priorité de valeur, changent complètement dans leur vie, se mettent à s'occuper des autres comme ils s'en sont jamais occupés, prennent conscience de ce qu'ils sont dans l'authentiquement spirituel et de ce qu'ils peuvent apporter au monde. C'est exactement ce qui est demandé aux trois apôtres en descendant de la transfiguration. Pour un instant, le jour de la transfiguration, leurs yeux s'ouvrent. Pour un instant, ils entrent dans ce secret merveilleux d'une chair divinisée, d'un visage qui porte la splendeur de la vie éternelle. Ils en sont tellement émerveillés que Pierre veut à toute force demeurer sur ce sommet. La chair du Christ est toute pénétrée de cette lumière. Le visage de notre Seigneur portait en lui toute la clarté de Dieu. Le corps humain est capable de cette formidable assomption. Il peut être transfiguré. Il a lui aussi un message de lumière à communiquer. Le Christ n'est pas venu seulement sauver notre âme. D'ailleurs, qu'est-ce que cela voudrait dire? Le Christ est venu révéler à l'homme qui il était. Il est venu accomplir l'homme dans toute sa grandeur, dans toute sa dignité, dans toute sa beauté. Notre corps a une vocation spirituelle, il a une vocation divine. Il est le premier évangile. Comme la lumière de l'âme, la lumière de l'esprit, la lumière intérieure, comment ce chant du silence qui monte des profondeurs de notre être, comment pourrait-il se faire jour si ce n'est à travers notre visage, à travers notre corps, à travers notre bienveillance, notre sourire, que doit passer le témoignage de la présence divine. Ce qui a été vécu au mont Tabor, c'est pour le rendre à l'humain, le partager avec l'humain. Quand nous avons des moments forts en présence de la présence, cela nous conforte et c'est pour le partager avec l'humain, avec tous ceux qui nous entourent. C'est pas pour le garder pour nous, hein. Et ce témoignage où Jésus, vrai visage de Dieu, amour qui n'est qu'amour, amour qui ne peut s'appartenir, nous l'avons vu dans la relation trinitaire, amour tout don de soi, vient complètement chambouler encore plus les apôtres au lavement des pieds. Alors ça, c'est une révolution qui, sur le moment, doit causer un abattement chez les apôtres dont on n'a pas idée. Ils attendent un Dieu de puissance. Ils attendent un Dieu, mais comme nous aujourd'hui aussi, on aimerait bien que, quand on dit que ton règne arrive, c'est qu'ils voient quand même hein, ce qui tu es, qu'ils se rendent compte quand même, et qu'ils arrêtent et qu'ils se convertissent. C'est ça la prière des apôtres à ce moment-là. Et elle reste quand même la nôtre à beaucoup d'égards, tant que nous ne comprenons pas et nous ne vivons pas le Dieu intérieur. Au lavement des pieds, celui qui se dit Dieu, pour lequel ils sont prêts à mourir, se met à genoux et se met à laver les pieds. Ils sont horrifiés, arrête, fais pas ça. Mais Jésus est à genoux devant l'homme. Jésus vient révéler à l'homme qui il est. C'est ce qu'on vient de lire. Ce qu'est l'homme, ce qu'est l'homme. L'homme a une capacité, un potentiel. L'homme incarne Dieu. Dieu est en nous. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On referme notre corps sur Dieu ou on le vit et on l'exprime et on le met au monde, comme Marie? C'est ça l'enjeu, hein? C'est ça l'enjeu du christianisme. Il n'y a aucun doute que le lavement des pieds, c'est la destruction de tous ces rêves charnels que les apôtres nourrissaient au fond de leur cœur et qu'ils voulaient réaliser à travers la puissance de Jésus. C'est la destruction de cette échelle de valeur fondée sur la domination. La grandeur n'est pas de dominer. Dieu n'est pas une majesté qui nous écrase. Il est une générosité qui appelle la nôtre. Être à genoux pour Dieu devant nous, c'est accomplir la seule grandeur concevable dans le monde de l'esprit, qui est la grandeur de l'amour. L'Eucharistie se rattache directement à ce geste bouleversant, à cette révélation d'une nouvelle échelle de valeur, où l'amour est le seul critère de grandeur. Et le voilà à genoux devant nous, au lavement des pieds, pour que nous apprenions que la vraie grandeur est précisément de faire de soi-même une valeur intérieure, une valeur où l'on se transfigure, où l'on devienne un bien commun, un bien universel, où l'on puisse ouvrir à toute la création un espace nouveau, où l'on puisse devenir pour les autres un ferment de génération. Toute prise de conscience exprimée, quelle que soit la manière dont nous l'exprimons, retentit sur le monde. Comme un témoignage très puissant, comme un livre très puissant, ça retentit. À Gethsémanie, Jésus est profondément seul. Il est seul dans le jardin de l'agonie, et là il doit repenser, selon Zindel, aux tentations. Il a choisi la croix. Il a renoncé à la tentation. Il le sait. Il sait depuis le début où il va. Il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il s'en aille parce qu'il faut que les apôtres ne l'aient plus devant les yeux. Parce que quand ils l'ont devant lui, ils en font le maître, le maître. Et ils suivent le maître, comme des petits poussins qui suivent la poule. Mais non, il faut qu'ils deviennent poule à leur tour. Et cela se confirme avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, au jardin, là où est enterré le Christ, arrive avec ses aromates. Elle le voit, lui parle. Elle lui demande où est-ce qu'ils l'ont mis. Et il lui dit, Marie, elle est tétanisée. Marie, c'est la voix du Christ. Elle se retourne, elle le voit, elle lui saute au cou. Et il lui dit, Noli, mais t'en guéris. Ne me retiens pas. Ce n'est pas l'idée de ne me touche pas, en fait. La traduction que Zindel en retient, c'est ne me retiens pas. Ne me garde pas pour toi. Et là, comme à la Samaritaine, il s'adresse à chacun de nous. Ne me garde pas pour toi. Ma mission va bien au-delà de vivre et mourir ici. Et après, il y a tout le reste. Hein. Il faut animer chacun. Et pour que le Christ puisse être universel, il ne faut pas qu'il soit retenu. Ce n'est pas sa mission du tout. Marie-Madeleine, elle ne pourra pas regarder le ressuscité pour elle. Il ressuscite pour l'univers. Pour chacun de nous. Rebelote avec Emmaüs. Les deux disciples marchent avec le Christ, ils lui racontent, mais tu te rends compte, mais tu ne sais pas que, etc. Ils marchent des heures hein, avec le Christ, des heures. Et le Christ leur restitue toute l'histoire qu'il a amenée. Hein. pas de problème. On ne le reconnaît pas du tout. Bon, mais viens déjeuner avec nous. C'est au moment où ils rompent le pain qu'ils réalisent qu'ils ont marché pendant 10 heures avec le Christ. Alors la Samaritaine, on peut comprendre, elle n'était pas du tout prévenue. Devine qui te parle. Là, Emmaüs, ça tilte pas. Ça tilte pas. Et en fait, Zindel se réfère à cette remarque de Saint Grégoire qu'il trouve d'une admirable profondeur, qui pourrait expliquer ou nous rendre sensibles tout le mystère de la révélation dans toute la Bible et dans toute l'histoire. Dieu apparaît aux hommes comme il est au-dedans des hommes, comme il est au-dedans d'eux-mêmes. Et c'est profondément vrai. Si on relit un petit peu beaucoup de témoignages à travers l'histoire, Dieu nous apparaît là où on en est. Quelquefois, on a des compréhensions qui évoluent. On va avoir la manifestation de Dieu complètement différente de ce que l'on avait vu à ce moment-là, ou plus profonde, plus différente, plus manifeste quelque part, alors qu'on ne le voit plus comme on était. On le voit comme on est. Et c'est pour ça que Marie-Madeleine, elle le voit comme le Christ qu'elle a connu, qu'elle veut garder. Emmaüs leur parle, il n'y a pas de problème. Thomas va vouloir mettre les mains dans le corps pour bien comprendre, etc. Chacun, et il se donne à chacun, avec un amour merveilleux. Tu me vois comme ça, vas-y. C'est merveilleux. Et puis arrive l'ascension, que Zindel considère être comme l'échec de Jésus-Christ. Et c'est là où la confidentialité joue jusqu'à l'ascension. Parce que même Pâques reste très confidentielle. Ils sont vraiment, quoi, la vie de Jérusalem, à le savoir, et encore, qui va croire à la résurrection. Ça reste très, très confidentiel. Et donc, pour Zindel, l'ascension est un échec. Et le Christ dit d'ailleurs, il faut que je m'en aille, sinon l'Esprit ne viendra pas à vous. L'Esprit, c'est l'universalisation, hein. L'Esprit va imposer la réalité de la présence intérieure parce qu'elle va se manifester. C'est là où ils vont pouvoir commencer à parler. C'est là où les poussins vont devenir à leur tour des poules. Ils n'auront plus personne à suivre. Dieu en eux va agir. Dieu en eux va guider. Dieu en eux va exprimer. Et les apôtres ont dû quand même, sur le moment de l'ascension, se dire que vraiment c'était complètement fichu, parce que effectivement cette résurrection, personne n'en avait entendu parler. Comment est-ce qu'ils allaient pouvoir convaincre les gens d'une résurrection? Comment est-ce, avec quels arguments ils allaient pouvoir, on n'allait pas les croire déjà. Emmaüs, personne ne les croit. Donc comment le faire? Mais c'est justement la Pentecôte qui va révéler aux apôtres toute l'histoire. Ils vont comprendre. Cette confidentialité, elle était sur l'humain, c'était pas très grave. C'est l'Esprit qui va les animer maintenant. Et l'Esprit, il est universel. Il est nécessaire que les disciples n'aient plus Jésus devant les yeux pour qu'ils le portent au-dedans d'eux-mêmes. Car c'est au-dedans d'eux-mêmes qu'ils vont découvrir en lui une présence universelle. Qu'est-ce que le Christ, justement? La présence totale de Dieu dans une humanité entièrement évacuée de soi, dans une humanité entièrement transcendée par l'Esprit. Dans le Christ, la présence de Dieu resplendit sans ombre et sans frontières, parce que l'humanité du Christ n'a pas d'adhérence à soi, qu'elle est pauvre, entièrement pauvre d'elle-même. Elle est l'humanité sacrement, l'humanité diaphane, l'humanité hostie, en qui Dieu, personnellement, se révèle et se communique. Ce sera justement l'illumination de la Pentecôte dans le cœur des apôtres, la découverte de cette présence illimitée d'amour qui ne peut se révéler en nous que dans la mesure où nous nous ouvrons à l'universel. Les apôtres justement vont découvrir ce jour-là que leur maître est au-dedans d'eux-mêmes et qu'ils ne peuvent le reconnaître que dans la mesure où ils se perdent de vue, où ils font eux-mêmes le vide en eux-mêmes, pour devenir cet espace universel où le monde entier est accueilli. À nous maintenant d'incarner ce message et de retrouver cette présence dans ce dialogue silencieux, dans ce tête-à-tête silencieux, dans ce recueillement dans notre intériorité, nourri de tout ce qui nous vivifie, nourri de tout ce qui nous spiritualise, nourri de tout ce qui nous émeut et nous rend charitable et nous rend ouverts à l'autre. Dans cette contemplation, sachant que Dieu a passé tout cela pour nous, pour pour nous montrer le chemin et que ce que nous souffrons aujourd'hui, Dieu l'a souffert infiniment plus et qu'il a pris la peine de venir le souffrir. Ça, c'est qu'on a quand même un des seuls Dieu qui se soit fait, le seul, dirais-je, qui se soit fait homme pour nous montrer, pour embrasser notre humanité, pour nous apprendre à faire avec elle, à faire avec elle en l'imprégnant de l'esprit, en dépassant nos tentations, en dépassant notre moi, en nous ouvrant à l'universel, en nous ouvrant à l'évangile. Chaque fois que nous cédons à une tentation, la matière l'emporte sur l'esprit. Chaque fois que nous résistons, chaque fois que nous élaborons une œuvre agrandie par l'esprit, nous le mettons au monde. Ça, c'est merveilleux. Il faut que nous soyons sûrs de cela. Chaque fois que nous dépassons, nous mettons l'esprit au monde et nous en faisons profiter l'univers. Nous sommes universels. Catholique veut dire universel. La véritable création est à venir. Rien n'empêche d'admettre dans cette perspective que le Dieu intérieur caché en nous soit aussi le Dieu créateur, mais d'un univers qui pour l'essentiel n'est pas encore. D'un univers qui n'a pas encore atteint ses vraies dimensions, qui est embryonnaire et qui ne pourra s'achever en avant de nous que si l'homme et les autres créatures douées d'intelligence, où qu'elles se trouvent dans ce même univers, accomplissent leur vocation et ferment l'anneau d'or des fiançailles éternelles en disant « oui » au « oui éternel qui est Dieu même ». Elle est en avant de nous. Le monde commence. La création vit un nouveau départ à chaque battement nouveau de notre cœur. Et c'est aujourd'hui, c'est chaque jour, le premier jour. Nous ne sommes plus liés par notre passé. Nous savons qu'un seul mouvement de notre cœur nous remet en face du Dieu vivant et qu'avec lui, la vie est toute neuve puisqu'elle est une nouvelle naissance chaque fois que nous nous approchons de lui.
L'évangile de Jésus-Christ, chemin de désappropriation pour vivre la relation à l'esprit. Vous venez de suivre une conférence de France-Marie Chauvelot, écrivain, auteur de la biographie de Maurice Zundel, une conférence enregistrée le 13 avril 2024 à l'abbaye de Belloc Habitat et Humanisme dans le cadre des samedis de l'abbaye de Belloc.